France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, au lendemain de la formidable arrivée de la flamme olympique à Marseille, qu'est-ce que le sport raconte sur nous et sur notre société? Car pour reprendre le titre d'un livre d'Edgar Morin, le sport porte en lui le tout de la société. Le sport comme miroir des mœurs, des valeurs, des aspirations et des tensions de notre société. Et inversement, nous verrons également quelle est la place du sport dans nos sociétés en s'appuyant sur une étude très intéressante menée par le sociologue Rémi Oudguiri, un centre d'intérêt majeur chez les Français, 71% s'intéressent au sport, le sport qui influence aussi nos modes de vie et qui exerce une fonction de socialisation majeure. Vous pouvez participer à notre conversation ce matin au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Ça donne finalement le modèle des sociétés démocratiques. En un mot, puisque chacun est égal, puisque chacun peut venir avec, je dirais, sa propre autonomie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le mérite qui va l'emporter. C'est le travail, c'est le talent. Or, dans les sociétés démocratiques, en théorie, qu'est-ce qui l'emporte? Au niveau des concours, par exemple, ben, c'est le mérite, c'est le travail et c'est le talent. Donc, pourquoi le succès du sport? Parce qu'à mon sens, il présente du sens de contre-société, qui est le modèle idéal de nos propres sociétés. C'est absolument fondamental. Sinon, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que ça joue à la fois sur la façon de s'impliquer et sur la manière de créer des modèles. Vous voyez ? Sinon, c'est très difficile de comprendre.
L'historien Georges Vigarello dans l'émission « L'été comme jamais » en 2021 sur France Inter. Bonjour Cécile Collinet.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Bonjour Laurent Vergne.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chef des informations chez Eurosport.fr et vous avez couvert de nombreux grands événements sportifs. Bonjour Brieux Ferraud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie et du développement du groupe Sopresse qui publie les magazines So Foot et Society notamment, et vous êtes le co-créateur de l'association Tatane, c'est ça ? Pour un football durable et joyeux. Bonjour Abdou Gnaba.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, fondateur de Sociolab et professeur associé à l'ESSEC. Et avec nous également, Rémi Oudguiri. Vous êtes écrivain, directeur général adjoint de Sociovision, une filiale de l'IFOP. Et vous venez de mener une étude très intéressante sur l'influence et les cultures du sport dans la société française. Alors Cécile Collinet, le sport, c'est une pratique, un spectacle, un mode de vie pour nombre d'entre nous. C'est aussi un moyen de comprendre notre société. Le sport porte en lui le tout de la société, pour reprendre le titre de ce livre d'Edgar Morin. Le sport, c'est un instrument d'observation privilégié pour les sociologues. C'est un indice de phénomènes sociaux plus généraux.
Alors oui, le sport, comme tout espace social, reflète le social à part entière, avec les mêmes problématiques d'une part, mais c'est aussi un espace particulier, me semble-t-il, parce que rares sont les espaces et les pratiques sociales qui rassemblent un nombre aussi important de personnes et qui... On n'est pas vraiment transclasse, parce qu'il y a des différenciations sociales importantes dans le sport, mais qui rassemblent quand même de manière importante des personnes. Et d'ailleurs, l'enquête le montre, que c'est un sujet de conversation privilégié qui traverse les clivages sociaux. Par ailleurs, c'est aussi un espace intéressant, parce qu'il est souvent appelé à la rescousse des problèmes sociaux, que ce soit en termes d'éducation, de socialisation, parce qu'il y a aussi un imaginaire qui s'est construit autour du sport sur les vertus qu'il porte et qu'on pourrait discuter. Je pense qu'on va peut-être discuter ce matin. Je ne sais pas si c'est encore le moment pour le faire.
Rémi Oudguiri.
Oui, alors le sport, ce qui est intéressant, c'est qu'il est partout aujourd'hui. Il suffit de se promener dans les rues et c'est assez impressionnant de voir comment les gens sont habillés, en fait. Et simplement le fait qu'une grande partie d'entre nous aujourd'hui portons des baskets, ayons un look décontracté, dit énormément de choses de l'importance du sport aujourd'hui. On pourrait dire, par exemple, qu'il montre qu'on a envie d'être décontracté, à l'image d'une certaine... façon de faire du sport, mais c'est aussi le reflet de notre préoccupation pour la santé. En mettant des habits de sport, on est en quelque sorte déjà déjà prêts à faire de l'exercice, bien que tous ne le font pas, évidemment. Il y a aussi clairement un côté, la valeur de performance qui est associée au sport. Vous habillez sportivement, bah, quelque part, vous portez ces valeurs de performance. Et puis, je rajouterai un dernier point qui est typique de notre époque, le jeunisme. C'est-à-dire que s'habiller sportivement, c'est rester jeune le plus longtemps possible. Et donc, dans cet engouement pour le vêtement sportif, bah, il y a aussi ce côté jeuniste. Et je rajoutais un dernier point qui me frappe aujourd'hui, c'est la tendance récente, les gens qui s'habillent avec des vêtements de sport très techniques. Alors, on les voit en ville comme s'ils allaient faire de l'escalade, faire du ski, alors qu'ils vont pas faire tout ça, mais ça montre à quel point le sport est un tel modèle qu'il s'invite dans nos façons quotidiennes de nous habiller.
Alors, Cécile Collinet, il y a 2500 ans, les Jeux d'Olympie étaient le reflet du sport comme partie intégrante de l'État et des structures éducatives et militaires. On pouvait lire les valeurs des cités grecques à travers les Jeux. 2500 ans plus tard, et Rémi Houdguiry l'a esquissé, les valeurs du sport ont largement infusé dans nos sociétés. Culte de la performance, de la réussite, du dépassement de soi, culte de la bonne santé, de l'impératif de rester jeune.
Alors déjà, entre les Jeux antiques et les Jeux modernes, je pense que c'est une construction hein, qui les lie, en fait. Les Jeux antiques étaient extrêmement différents, hein, par exemple, des Jeux olympiques modernes et du sport moderne. Ensuite, je trouve qu'autour du sport, il y a quand même la construction d'un mythe extrêmement fort qui est au fondement même hein, de la construction du sport moderne à la fin du 19e siècle, autour de ces valeurs de dépassement de soi, de collectif, de goût de l'effort, qui sont pourtant largement écornés hein, par de nombreux exemples à tous les niveaux de la pratique sportive. Mais cette idée hein, des valeurs du sport perdure, certainement parce que, comme le disait Georges Vigarello, le sport représente un modèle idéal de société. Hein, on pourrait développer sur un grand nombre d'aspects. Et que c'est aussi, comment dire, un objectif hein, des politiques publiques, un objet largement relayé aussi par les médias, de faire du sport le barangon d'un nombre de valeurs qui, à mon avis, sont aussi de l'ordre de la construction sociale qui serait à discuter. Parce que, comme je l'ai dit, elles sont largement écornées par de nombreux exemples.
Abdou Gnaba.
Il y a cette idée d'imaginaire, en fait, le sport comme société idéale, mais c'est aussi le sport comme expression de mythe fondateur de chaque société. Je ne le développerai pas ici ou peut-être tout à l'heure, mais on peut voir que chaque club de foot, selon les travaux de mon éminent collègue Christian Bromberger, joue en fonction de la culture de la ville. Et si je vous donne un rapide exemple, à la Juventus de Turin, la culture de la ville, c'est la famille Agnelli, donc c'est les fondateurs de Fiat. Et chez Fiat, les cols blancs et les cols bleus sont traités à égalité. Ce qui fait que même un joueur aussi exubérant que Zlatan Ibrahimovic ou d'autres, sont tout à coup discrets. C'est un club où c'est les Zidane, où c'est les Deschamps justement qui ne parle pas. Naples, c'est une culture christique qui ne pouvait connaître son apogée que lorsqu'elle allait rencontrer son Messie, Diego Armando Maradona. Donc vous voyez que quand on voit jouer une équipe, en fait, on voit jouer son mythe fondateur, on voit jouer sa culture fondamentale. Et à l'inverse, on pourrait se poser la question de savoir si les échecs du PSG ne viennent pas de son double mythe fondateur, Paris d'un côté, Saint-Germain de l'autre. Comment les réunir pour qu'enfin elles puissent exprimer une culture et une seule.
Je m'adresse aux deux journalistes. Le sport, c'est un bon moyen pour vous d'analyser nos sociétés, Laurent Vergne?
Oui, sans doute, et c'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça permet de transcender les clivages générationnels, les clivages sociaux. Après, je pense qu'il faut pas vouloir faire porter au sport une responsabilité plus grande que celle qu'il peut endosser. Pour moi, l'exemple presque fondateur, c'est la Coupe du Monde 98.
On va y revenir tout à l'heure.
Ouais, vous en parliez tout à l'heure, et je pense que à travers la France Black Blamber, cette équipe était Black Blamber, mais c'est pas parce qu'un collectif sportif avec ces joueurs-là, ce staff, a réussi à accomplir quelque chose d'exceptionnel sportivement, que derrière, ça allait régler tous les problèmes qui germaient déjà dans la société française. C'était, entre guillemets, seulement un formidable moment de communion et de joie. Et quand je dis seulement, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et à part le sport, et notamment le football, qu'est-ce qui peut générer ce genre de choses-là? Des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées et ailleurs. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que le sport.
Brieux-Ferraud.
Hier, il y avait des milliers de personnes dans le Vieux-Port.
À Marseille.
C'est Jules qui a allumé le chaudron. Et c'est bien que ce soit lui qui l'ait fait, parce qu'effectivement, comme le J, c'est le S, hein, c'était ça l'expression hier, le jeu, c'est le sport. Je parle un peu du jeu et du fait que ça puisse revenir au cœur du sport. Je pense que ça va être plus une célébration cet été la dimension ludique, du fait qu'on puisse jouer de tout. Le sport est une version codifiée du jeu, mais il y a quand même beaucoup d'autres manières de pouvoir s'en amuser cet été. Et je pense que c'est ça qui pourra faire écho rebondir et énerver un peu des changements de société profonds sur les questions de politique publique, sur les questions ludiques, associatives. Donc, voyons le jeu avant le sport, je pense, cet été, parce que c'est une manière, une pâte à modeler sociale qui va permettre de répondre à beaucoup de problèmes.
Rémi Guéry.
Oui, il y a cette dimension, en effet, de célébration hein, qui, pour moi, est marquante dans le sport d'aujourd'hui, qu'on voit très bien dans l'étude qu'on a faite. Et à l'époque des Jeux Olympiques, à l'époque de la Grèce antique, on célébrait Zeus, en fait. Il y avait une dimension religieuse. Alors, aujourd'hui, il n'y a a priori pas de dimension religieuse, mais il y a quand même ce lien qu'on recherche. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, dans nos sociétés, le sport est si important, parce que c'est quasiment la seule activité qui permet de fédérer dans des grandes compétitions, on va avoir les Jeux Olympiques, il va y avoir l'Euro, etc. Des gens de toutes origines, de tout clivage. Et je pense que ce besoin de célébration, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui dans la société que vous rappeliez, société archipel, société fragmentée. Voilà quelque chose, une activité qui nous lie tous temporairement autour d'un même idéal.
On célébrait Zeus il y a 2500 ans et aujourd'hui on célèbre quoi ? On célèbre le culte de la performance, je le disais tout à l'heure, du dépassement de soi, le culte de la bonne santé. C'est ça les valeurs oui, que alors, nous célébrons à travers le sport et singulièrement aux Jeux Olympiques aujourd'hui ?
J'ai presque envie de dire qu'on célèbre la célébration, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une envie simplement de communier, une envie de faire partie d'un collectif parce qu'on est dans des sociétés extrêmement individualistes. Après il y a un chiffre moi que je suis très content d'avoir mesuré pour la première fois, parce que je me suis toujours demandé, vous savez, quand l'équipe de France gagne, il y a toujours quelqu'un pour dire on a gagné. Et je me suis toujours demandé, est-ce que tout le monde pense la même chose ? Et en fait, dans l'enquête, on s'aperçoit qu'il y a 69% des Français qui, effectivement, quand un sportif français, un athlète, une équipe française gagne, se sent fier de ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une nette majorité, mais il y a quand même un petit tiers qui n'est pas tout à fait là-dedans.
Cécile Collinet.
Oui, je crois aussi fondamentalement à l'importance des moments collectifs et qui rassemblent et des images collectives qui rassemblent une société assez fragmentée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, je pense qu'il faut se garder de l'idée que le sport est porteur de valeurs et de vertus en soi. Et ne pas penser qu'il faut un véritable travail éducatif réel pour qu'elle soit transmise de manière un peu plus générale. Et ça, c'est un véritable problème et c'est un véritable travail. Il y a des spécialistes de la question et ça pose de nombreux problèmes auxquels s'attellent les institutions du sport, les acteurs du sport de terrain que sont les éducateurs, par exemple.
Alors, on se retrouve dans quelques instants. Nous vous révélerons les enseignements de l'enquête de Sociovision sur les différentes cultures du sport qui influencent les modes de vie des Français. Le sport comme reflet de nos valeurs et des tensions qui traversent nos sociétés. Puis nous verrons si les JO auront la capacité de raccommoder notre archipel français. Ce sera juste après avoir écouté Benjamin Biolay qui interprète Ma route, une chanson de 2020, 10h17 sur France Inter.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte. Dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne. Elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route, ma route. J'ai passé les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère. Demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint tel un épouvantail. En frappant à ta porte, j'ai monté sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif. Enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver et plus rien ne m'étonne. Ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule dans la nuit. We'll be right back.
traversé la France, j'ai parcouru le monde, j'ai connu bien des transes, j'ai fleuri quelques tombes. Je voulais qu'on m'arrête et non pas qu'on me sonde. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule dans la nuit noire, je tourne jusqu'à trop tard. Je roule jusqu'à l'aube, jusqu'au bout de la nuit fauve, de la nuit fauve. J'ai parcouru les villes, j'ai traversé le globe. Jamais le moins civil, t'as toujours le plus sobre. Je rêvais de presqu'île, dans la cour de l'immeuble, lassé d'être immobile et de faire partie des meubles. J'ai traversé le siècle, tel l'enfant d'un autre. Jamais le plus sélect, pas avare de mes fautes. Hier c'est le printemps, demain c'est le tombeau. Bienheureux ceux qui croient que leur survivent les mots. J'ai survolé l'azur, j'ai survolé les mers. Contrebandier c'est sûr, vas-y demande à ta mère. En regardant l'océan comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments.
Benjamin Biolay interprétait Ma route.
Et voilà une bonne résolution de fête.
Grand bien vous fasse.
On l'a dit, on l'a fait, cette année on s'inscrit au sport.
Eh oui, parce que les résolutions, hein, on en parle, la mademoiselle, mais l'important c'est de s'y tenir. C'est vrai, c'est un engagement.
Ali Rébéi.
Eh bien c'est parfait, vous pouvez commencer votre première séance.
Ma première quoi?
Votre première séance de sport directement. C'est votre résolution, non?
Notre résolution, c'était de s'inscrire au sport, pas d'en faire, mademoiselle.
Sur France Inter.
Et ce matin, ce que le sport raconte sur nous et sur nos sociétés. En 1998, la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde est bien célébrée, une France black blanc beurre.
Petit et but! L'équipe de France est championne du monde! Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là!
La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur.
Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que cette victoire, ce slogan n'a servi à pas grand-chose. Moi, je pense le contraire, ça a permis de légitimer des questions. Notamment autour qu'est-ce que c'est être français, pourquoi accepter effectivement une équipe multiculturelle, multireligieuse, et pourquoi dans la société nous avons plus de difficultés. Et nous sommes dans cette continuité de questionnement.
Medley signé Claire Destacan, sport et société étaient profondément intriqués au moment de la victoire de l'équipe de France en 1998. Le foot comme reflet de notre société multiculturelle, une société multiculturelle qui se reflétait elle-même dans l'équipe nationale. Et comme le rappelle le chercheur Yvan Gastu, cette victoire a permis de célébrer l'intégration républicaine. Une victoire qui symbolisait l'idéal d'une société multiculturelle. C'était en trompe-l'œil, Laurent Vergne, journaliste à Euronews.
Eurosport. Je ne sais pas si c'était en trompe-l'œil, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas mettre un costume trop grand pour ces sportifs et pour ces équipes. À mon avis, le sport, même de très haut niveau, n'a pas vocation à régler les problèmes de toute une société qui sont complexes, qui sont probablement pires aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle, mais qui commençaient déjà à apparaître au moins en filigrane. Donc, on entendait Jacques Chirac, je crois, là, dans le son. Je pense que dès que la politique commence à se mêler de tout ça et à vouloir, même peut-être avec de très très bonnes intentions, récupérer d'une manière ou d'une autre ce genre de succès et de moments qui sont vraiment, encore une fois, des moments rares pour un pays et que le sport permet de vivre, à mon avis, ça devient un petit peu vain, voire dangereux.
Abdou Gnaba, anthropologue.
Si je le prends à l'inverse, ou alors sous un autre angle, disons que pour faire mouvoir les foules, on le sait depuis Gustave Le Bon, et c'est l'émotion qui prime. Mmh. Et pour faire passer un message, il faut mettre de l'émotion. Émotion, motion, donc c'est mettre en mouvement. En fait, ce qui se passe, c'est que le sport permet des émotions colossales en ce qu'il nous communie, justement, et en ce qu'il fait que tous les individus se sentent appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Donc, comme il est difficile de s'imaginer ce que c'est qu'une nation, de ce que c'est même qu'une patrie, ou ce que c'est que faire société ensemble, eh bien, on le vit par l'émotion à travers un résultat sportif, en fait.
Rémi Oudguéry.
Oui, je pense qu'effectivement, on donne trop d'importance, enfin, on veut donner trop d'importance au sport dans ses effets politiques. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ce moment de communion, il a son utilité, parce qu'à un moment donné, il fait que chacun prend conscience d'appartenir à la même société. Alors même si ça n'a duré que quelques jours, quelques semaines, d'ailleurs on l'a vu ensuite, hein, quand la France a gagné de nouveau la Coupe du Monde, il s'est quasiment rien passé, il n'y a pas eu de discours unificateur, il n'y a pas eu d'enthousiasme qui a duré au-delà de quelques jours. Donc c'est vrai que peut-être que ce moment est assez unique, parce que c'était la première fois, parce que c'était aussi une période un peu différente d'aujourd'hui, hein. C'était, on était en période de croissance économique à l'époque, il y avait, on s'approchait du 21e siècle, donc il y avait l'entrée dans un nouveau millénaire.
Puis tout c'était ça, en France aussi.
En plus, ça s'est passé en France. Enfin, il y avait toute une conjonction de paramètres qui ont fait que ce moment a été perçu comme fondateur. Je pense que depuis, ça s'est totalement banalisé, normalisé, et je pense plus qu'on soit dans ce contexte-là.
Et puis la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud et le fiasco de l'équipe de France fut le négatif de la victoire de 1998, hein, 2010, comme symbole de l'échec de l'intégration à la française célébrée en 1998. Brieux,
Ferrand. Vous êtes quadra et quinca et que vous avez oublié qu'en 2018, il y a les gamins qui ont kiffé et qui vont continuer de kiffer, que la verticalité d'un Mbappé, c'est un peu la caractéristique de plein de leaders associatifs.
Mais 2010 avait été à l'époque analysé comme le négatif de 1998. Rappelez-vous, certains commentaires, certains articles de presse qui étaient d'une sévérité absolue et piétinaient cet héritage de 1998.
Les deux avaient peut-être rien à voir, qu'il y avait quand même des leaders qui étaient, certains n'étaient plus là du tout. Donc, entre-temps, on a quand même regagné la Coupe du Monde. Visiblement, c'est un détail, alors que pendant 40 ans, on a vécu sur la défaite de France-Allemagne 82 en faisant chier tout le monde pendant des années. Donc là, on a quand même motif à pouvoir construire sur des victoires.
Mais souvenez-vous des articles de presse. Enfin, Abdou Gnabah, en 2010, après l'échec de l'équipe de France en Afrique du Sud, on piétinait la France Black Blomber de 1998.
C'est justement ce qu'on disait, justement, ce qui se disait autour de la table, ne pas faire porter au sport des enjeux politiques qui ne sont pas les siens, en fait.
Cécile Collinet, professeure de sociologie.
Moi, je voulais juste rappeler qu'il n'y a pas que le foot dans le sport. On a d'excellents résultats dans d'autres activités, en handball, par exemple, qui donnent aussi l'image donc d'une équipe de la diversité. Moi, je crois à la force des images. Je pense que c'est un moment, ça a été dit hein, par les différents invités. Mais je pense que le danger, c'est de penser que le sport, il est en lui-même porteur de cette fonction inclusive et que ça occulterait le véritable travail politique et éducatif qu'il faut faire derrière pour que ces valeurs soient réellement transmises et infuses dans la société.
Ouais. Alors, 25 ans après la victoire de 1998, la France est devenue un archipel, hein, pour reprendre la célèbre formule de Jérôme Fourquet, une nation, je le cite, multiple et divisée. Est-ce que le foot contemporain de 2024 reflète les tensions qui traversent cette société multiple et divisée, Rémi Oudguéry?
Moi, je suis pas un spécialiste du football, mais je pense que moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le foot n'a jamais été aussi influent. Si on prend par exemple les réseaux sociaux, si vous prenez le compte Instagram de Mbappé, c'est plus de 100 millions de gens qui le suivent. Si vous prenez Cristiano Ronaldo, c'est plus de 600 millions. Donc il y a un impact énorme, et j'ai l'impression que la parole est extrêmement mesurée, très conventionnelle, très presque aseptisé. C'est-à-dire que, et en même temps, on voit que il y a une attente chez les jeunes en particulier que ces modèles finalement disent quelque chose parfois, mais ils s'interdisent de le dire parce qu'aujourd'hui tout est devenu quand même du marketing en réalité.
Ils font, ils parlent plus, ils font. Kylian Mbappé et Faisal Amari, ils ont une fondation. Aujourd'hui, ils vont changer la vie de millions de gamins. Ils sont en train d'ouvrir des antennes à droite à gauche. On récupère tous les joueurs de l'équipe de France qui reviennent à la retraite en France avec un gros pactole. Idem pour les joueurs NBA, idem pour des gens qui ont fait carrière dans le sport de très haut niveau. Et on va voir l'essaimage finalement de financement d'actions publiques, associatives, de choses concrètes. Donc je pense qu'ils font plus qu'ils ne parlent, et c'est une bonne chose.
Exemple des tensions qui traversent nos sociétés dans le football avec cet extrait de la série La Fièvre actuellement diffusée sur Canal+.
Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot.
C'est le tout bon. Marins, s'il vous plaît. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc ?
Claude Etiam est un cadre respecté de l'équipe de France.
Mais c'est encore pire.
Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En deux jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement.
Toujours plus hard, toujours plus de buzz.
C'est un cauchemar.
Ils ont trouvé un martyr avec leur faudé. Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc. C'est qui, oh ?
Le foot, c'est une digue. Si ça cède, tout y passera.
Alors, dans la série à succès La Fièvre d'Éric Benzekri, diffusée sur Canal+, et qui montre les tensions identitaires qui parcourent une société au bord de l'implosion, c'est assez patent. Là, on voit que le foot est le réceptacle de nombreuses thématiques sociétales, identité, racisme, Laurent Vergne d'Eurosport.
Oui, et que le foot peut être à la base d'un embrasement. Alors là, c'est une dystopie et ça va vraiment très très loin. Hein. On parle de guerre civile dans La Fièvre. Ce qui est, entre guillemets, marrant, c'est que La Fièvre parle en filigrane de trois événements footballistiques. Le coup de boule de Zidane en 2006. D'ailleurs, je crois qu'il est mentionné dans le premier ou dans le deuxième épisode. Ce dont vous parliez, Ali, en 2010, l'affaire Anelka qui insulte son entraîneur, et sans doute avec une pincée de Benzema, je pense, pour quelque chose de plus contemporain. Donc on retrouve ces trois éléments-là et c'est pas un hasard. Oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé de La Fièvre ? Est-ce que ça raconte bien les tensions de l'archipel français à travers le foot ?
Oui, à ce niveau-là, oui. Après, moi, j'ai des réserves sur... Mais là, c'est mon ressenti de téléspectateur, donc c'est pas très intéressant, mais sur les personnages que je trouve, à mon avis, manque un peu d'ambiguïté. Voilà, les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Et puis, c'est très écrit, et je trouve qu'il y a un côté presque factice dans les dialogues qui manque pour moi de vérité naturelle. Donc j'ai été plutôt un petit peu déçu, mais je trouve que ça reste quand même une série très ambitieuse et pas inintéressante du tout.
Rémi Hudguéry, vous avez vu La Fièvre aussi ?
Oui, oui, et pour le ramener à notre sujet, ça montre à quel point le sport peut devenir un enjeu majeur et peut mettre le feu à tout un pays, en fait, hein, puisqu'après, il y a une polarisation de la société qui se produit autour de l'acte fondateur qui a été rappelé. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le reflet de la société actuelle dans lequel le sport est devenu le creuset de toutes les préoccupations multiculturelles, économiques, il y a des enjeux politiques énormes. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que c'était en effet une dystopie, mais où le sport est au cœur des enjeux, en fait.
Et plus largement, c'est vrai que le sport est le réceptacle de nombreuses thématiques sociétales, hein, donc identité, racisme, homophobie, sexisme.
Oui, oui, tout à fait. L'inclusion en règle générale. Hein, je pense que ça montre aussi qu'il y a une attente très forte aujourd'hui, et l'enquête qu'on a menée le montre, pour que le sport... prennent sa part en termes d'intégration, en termes de lutte contre les violences sexuelles, etc. Enfin, je pense qu'on n'est qu'au début de quelque chose. Je pense que le fait que le sport soit si important dans la société d'aujourd'hui, quelque sorte l'oblige pour les années qui viennent.
Cécile Collinet.
Oui,
vous avez vu La Fièvre aussi.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est intéressant parce que ça remet un peu en question ce qu'on a dit avant sur l'exemplarité du monde du football qui est loin d'être exemplaire à travers ses sportifs ou même son institution, hein, qui est émaillée de nombreux scandales. Hein, je reviendrai pas dessus. Ce qui est intéressant aussi dans ce feuilleton, c'est que c'est aussi dans le club sportif qu'on réinjecte, hein, les valeurs qui sont importantes à partager et qu'on travaille ces valeurs. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est sur le pôle juste de la communication, hein, plus que sur le travail réel qui est fait au service de ces valeurs de partage, d'intégration, de collectif, etc.
Abou Gaba.
En fait, il y a le sport et puis le spectacle du sport. Si effectivement toutes les thématiques sociales s'y retrouvent, c'est parce qu'il est extrêmement médiatisé. Et parce qu'il est médiatisé, alors forcément, on peut se projeter de manière cathartique, essayer de soit vivre un monde idéal, soit revenir sur ce que veut dire tout sport et toute compétition. Parce que c'est quoi en fait? C'est deux personnes qui, pour ne pas s'opposer l'une à l'autre, vont mettre en place une règle, un référent, l'arbitre, référé en anglais. Et donc c'est vraiment en fait la traduction en fait de tout état moderne. C'est-à-dire que entre toi et moi, il y a une règle et toutes nos pulsions ne peuvent pas s'exprimer sans en passer par quelque chose qui nous tient. Et donc la véritable question dans tous les sports, c'est celle de la fédération, de celle de ce grand ONU, le garant de la règle, le garant de la loi, c'est le garant de la règle, et si le garant de la loi, parlons de la FIFA pour le foot, venait à faillir, alors ce serait une catastrophe mondiale.
Oui, il y a une fonction cathartique en fait du sport. Hein. C'est en fait, je pense que dans des tas de compétitions, c'est ça qu'on fait. On regarde un sport, on voit le conflit se résoudre, etc. Et puis ça s'arrête là normalement. Et dans la fièvre, justement, ça s'arrête pas là. C'est ça la grande différence.
Oui, ça Norbert Elias l'a bien
dans
montré.
Dans sport et civilisation.
Hein, voilà, dans sport et civilisation, hein, la fonction cathartique, en tout cas, de libération des émotions dans une société très contrôlée. Et c'est vrai que le respect de la règle et le respect, donc, ce sont deux égaux, hein, avec le principe d'égalité des chances qui s'opposent dans le respect d'une règle. Mais ce que nous montre la réalité, c'est qu'il y a une volonté de transgression permanente de la règle à travers le dopage, à travers les tricheries. Donc on est toujours dans cette image idéalisée du sport et dans la réalité hein, du fonctionnement sportif qui n'est pas toujours idéal et qui ne répond pas toujours à ces valeurs partagées. Mais pourtant, il résiste. Il résiste dans l'imaginaire à cette vision un peu idéalisée. Et ça, il faut le questionner parce que c'est particulièrement intéressant justement de se pencher sur cette fonction et sur cet idéal hein, qui perdure.
Brieux-Ferraud.
Faut vivre assez tranquille avec le fait quand même qu'on a toujours eu la société a toujours eu le football qu'elle méritait un peu. Donc en fait, c'est en fonction de ce qui en sort aujourd'hui. Les problèmes de paris sportifs, de vices, de pratiques illicites, de rapports de violence ou géopolitique, c'est un peu l'état du monde. Donc c'est pas ça le suit. Ça a toujours été un peu le baromètre par rapport à d'autres sports. Sur la règle, c'est un sujet qui nous a travaillé avec Tatane, alors socio-solidaire maintenant où on crée des nouveaux sports.
Rappelez ce qu'est Tatane.
Et Tatane, qui était un mouvement pour un football durable et joyeux, et sous ce nom un peu emphatique, on avait l'idée de pouvoir essayer de trouver un moyen d'inclure des gens qui détestaient le sport par le jeu. On pensait que le foot était le meilleur véhicule pour le faire. Et après multiples essais en tout genre, on avait trouvé un truc plutôt qui marchait plutôt bien, qui était le changement de règle. En disant, si on fait un 2 contre 2 ou 3 contre 3 dans une pièce ou sur un terrain, on va demander aux gens de venir avec leurs règles pour rééquilibrer un peu les différences. Et donc, quand vous faites la règle Sidney Govou, qui consiste à dire qu'un joueur qui marque sort, ça change radicalement la philosophie du rapport à la passe, du fait qu'on le donne. Et quand vous faites des ateliers en demandant à chacun de réfléchir à comment il voit, lui, dans son rapport à la règle, non seulement vous parlez des règles, mais c'est par le jeu et par la dimension ludique dont on parlait au début, qui est de se dire que c'est le kiff immédiat qui l'emporte, quoi.
Rémi Guéry.
Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, en effet, sur le fait que le sport est un idéal, mais en réalité, dans la pratique, c'est pas du tout ce qu'on voit. En tout cas, il y a des forts écarts. Ça me fait penser que la religion, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans la religion, il y a toute une série d'idéaux et de valeurs qui sont célébrées régulièrement, mais dans la pratique, très souvent, on note exactement les mêmes écarts.
Parade, le thème musical des JO 2024, composé par Victor Lemann et que nous avons découvert hier à Marseille lors de l'arrivée de la flamme. Est-ce que vous pensez, de façon un peu emphatique, que les Jeux Olympiques pourront raccommoder notre société française archipélisée? Confidence d'un conseiller de l'Élysée à propos d'Emmanuel Macron, lu dans l'Express, Emmanuel Macron qui veut faire de ces Jeux un moment unificateur, un antidote contre l'archipélisation, Brieux-Ferraud.
Alors l'archipélisation, c'est déjà toujours, on a 38 000 villages en Europe sur les 80 000, c'est-à-dire 40% de la fragmentation territoriale de l'Europe, c'est chez nous. Donc en fait, on est très très fragmenté, on a 16 millions d'associations, et pour autant, quand ça va mal avec le Covid, eh ben ça tient. Donc en fait, faut accepter que cette fragmentation-là, c'est un peu notre quotidien. Là, quand vous allez sur l'appli Paris 2024 qui a été activée il n'y a pas très longtemps, il y a un petit onglet sur la carte des Jeux et il y a à l'heure actuelle 5000 événements qui ont eu dans toute la France. Quand vous regardez les libellés des célébrations qui auront lieu, on est très très loin uniquement de la question de la glorification d'un sport de performance uniquement. Et c'est ces histoires-là au quotidien, ces micro-histoires qui feront la grande. Donc je suis plutôt confiant sur le fait qu'on se réappropriera un peu les Jeux cet été, quoi.
Rémi Houdguéry, ces Jeux vont avoir le pouvoir peut-être de raccommoder notre société?
Bah, tout va dépendre de plein de facteurs, dont notamment les performances, je pense, des athlètes eux-mêmes, hein, les athlètes français. Plus il y aura des bonnes performances et plus ça créera un effet d'entraînement, comme dans toute compétition sportive. Et voilà, c'est ça que ça va être ça. Hein, mais je pense pas que les seuls Jeux Olympiques peuvent raccommoder quoi que ce soit. Enfin, mais ça peut.
Ce sera un baume apaisant. Voilà. Mais il ne faudra pas en attendre un miracle durable.
Non,
Laurent Vergne d'Eurosport.
Non, je pense qu'il en reste. Moi, je suis plutôt optimiste à la fois au niveau l'organisation et au niveau des performances. Je pense que la France peut vivre ses meilleurs jeux sportivement depuis très 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 longtemps. Maintenant, à mon avis, il n'en restera pas grand-chose. Ça durera 15 jours, mais si jamais les politiques, la présidence de la République ou autre espèrent tirer quelconque bénéfice de grands Jeux Olympiques, à mon avis, c'est illusoire.
Une étude tout de même de 2016 qui a analysé les effets des JO de 2012 de Londres sur les habitants de la capitale anglaise en comparant leur bien-être à celui des Parisiens et des Berlinois durant la même période, enquête auprès de 26 000 résidents de ces villes. Eh bien, les chercheurs ont constaté tout de même une hausse du bien-être chez les Londoniens, avec une réduction notable de l'anxiété. Votre regard, Cécile Collinet, sur les JO qui pourraient nous aider à nous rassembler, à nous réconcilier?
Oui, ben j'allais citer justement cette étude, c'est drôle. Effectivement, il y a des indicateurs aussi de bonheur qui ont été faits sur Londres et qui montrent qu'il y a une augmentation du bonheur moyen à travers de la population, mais ça ne dure pas. En général, les mesures montrent que ça dure le temps des Jeux. Donc oui, c'est un espace quand même de célébration collective, mais qui retombe assez vite. Mais ça laisse quand même, et ça je pense que c'est pas négligeable, une trace mémorielle. Et ça, c'est important.
Brio Ferro.
Ouais, non, moi je pense plutôt que ça va laisser une trace et que c'est la première fois depuis maintenant 40-50 ans où pas que les intellectuels, mais on a décidé de séparer le corps et l'esprit. Là, on va pas devenir le Brésil, ni l'Argentine, ni le Sénégal, ni l'Angleterre, mais il est possible qu'il y ait un nombre d'expériences qui font que des gens vont découvrir le sport, qu'une génération qui est plus là en situation d'obésité depuis maintenant une dizaine, douzaine d'années reparte avec une trace très 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 personnelle et kiffante encore une fois.
À une condition, c'est que, comme on le dit depuis le début, que le sport reste le sport et que la politique n'essaye pas de le récupérer. Sinon, il sera très facile de dire « je vous donne du pain et des jeux et laissez-moi m'occuper du reste ». Donc le risque est sincère quand l'intention n'est pas posée sur la valorisation du sport, mais sur une unification politique. Cette unification peut être une conséquence, mais si on en fait le but, alors on se trompe d'objet.
Laurent Vergne.
Oui, d'autant qu'il faut faire attention à une chose quand même et rappeler que les Jeux Olympiques, ils sont aussi soumis à de très très fortes critiques aujourd'hui. Et trouver des villes, on l'a vécu avec 2024 et derrière 2028 avec Los Angeles, il y a beaucoup de villes qui se sont retirées de leur candidature parce qu'elles étaient conscientes que leur population voyait ça plutôt d'un mauvais œil. Et là, je ne parle pas au niveau sportif, mais vraiment au niveau de ce que les Jeux représente, une sorte de machine afrique gigantesque où le sport amateur a plus vraiment sa place.
Mais ne boudons pas notre plaisir, la cérémonie d'hier à Marseille était tout de même enthousiasmante, hein, vous êtes d'accord autour de la table?
Oui, et je pense que on revient à cette idée de célébration. Je veux dire, il y a ce besoin de célébrer collectivement, effectivement, pour s'inscrire dans l'histoire, parce qu'en effet, même si 1998 n'a pas eu l'effet escompté sur la paix dans notre pays, en revanche, c'est un souvenir qui nous a marqué à jamais et qui fera que ça nous liera à jamais ensemble.
Alors Rémi Oudguiri, venons-en à votre étude avec Amaury Média. Vous avez réalisé une étude sur l'influence et les cultures du sport dans la société française. Le sport, c'est un centre d'intérêt majeur pour 71% des Français interrogés. Vous avez interrogé 1500 personnes représentatives de la société âgées de 18 à 70 ans.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un point qui est marquant. C'est qu'une grande partie de nos contemporains s'intéressent au sport. Alors attention, il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont plus, on va dire, réguliers, s'informant davantage, plus régulièrement, assistant aux manifestations sportives plus régulièrement que les femmes. Mais même les femmes, quand vous prenez la population féminine, c'est 60-70% des femmes qui disent s'intéresser au sport. Et ça aussi, c'est un phénomène assez nouveau, que la féminisation, pas seulement de la pratique, mais aussi de l'intérêt pour le sport.
Et le sport qui est un puissant créateur de liens sociaux, surtout chez les hommes, encore une fois, En sachant que 77% des Français confient discuter de sport de vive voix avec leurs amis ou leurs collègues de travail, et les hommes plus souvent que les femmes.
Oui, tout à fait. Donc ça dit deux choses. Ça dit d'une part que le sport est partout, et donc à un moment donné, il s'invite dans les conversations, y compris de ceux qui ne s'intéressent pas au sport. Et puis surtout, sur les hommes en particulier, on a demandé aux hommes, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quels sont vos sujets de conversation. Le sujet numéro un avec lequel ils se sentent le plus confortable, c'est le sport. Et de façon assez nette, chez les femmes, dans les 10 sujets de conversation le sport n'apparaît pas. C'est plutôt la vie quotidienne, la santé, etc. C'est beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui montre que aujourd'hui, chez les hommes, le sport a vraiment vocation à lier les hommes entre eux. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes se sont fait des amis dans un cadre sportif.
Donc, on peut dire que la sociabilité masculine doit beaucoup et redevable au sport.
Ah oui, totalement. Je pense qu'effectivement, que ce soit à l'adolescence, en pratiquant le sport, que ce soit ensuite dans des conversations de café.
J'ai vu ça avec Akram Khan, le chorégraphe anglais, qui effectivement disait, lui, en tant qu'Indien à Londres, avait fait de la danse et n'avait pas pu sociabiliser par le foot, parce que c'est de la culture du pub, en l'occurrence, et lui n'était pas possible. Et donc, il avait une autre vision de ce que c'était que le fait d'être ensemble. Là, je pense que la vraie star des Jeux va quand même être la visibilisation de la pratique féminine, la question des succès, de la réussite. On va voir des choses qu'on voyait pas sous cet angle-là. On a Caitlin Clark, la jeune joueuse universitaire de basket, qui va être dans Team USA, l'équipe de basketball. Ils ont emmené là ces compétitions universitaires féminines, l'intérêt pour la société américaine sur quelque chose d'assez d'une pratique féminine qu'on n'avait jamais vue à ce niveau-là, qui va, à mon avis, se prolonger au niveau français, au niveau mondial, à l'occasion des Jeux.
Cécile Collinet.
Oui, c'est un petit peu dommage que le sport soit un lieu de sociabilisation masculine et de pas de partage des sexes. Ça montre aussi, je pense, en creux, la difficulté du sport féminin à se développer, même si les choses ont beaucoup progressé. Mais dans les enquêtes, par exemple, faites par l'INJEP sur la pratique sportive féminine, l'écart entre les hommes et les femmes s'accroît. Donc je pense qu'il faut garder ça présent à l'esprit. Après, que ce soit pas un sujet de conversation, parce que les femmes, elles sont encore très responsables de l'intérêt. Tendance domestique dans la répartition des tâches très inégalitaire au sein des couples, qui font que les sujets de conversation sont différenciés selon le genre.
Et vous avez raison, parce que le premier sujet de conversation dans l'étude de Sociovision, c'est la vie quotidienne chez les femmes.
Tout à fait.
C'est qui reflète pratique, la charge en fait. Mentale qui repose essentiellement sur elle. Rémi Hudguiry, cette omniprésence du sport dans les pratiques et les conversations, eh bien ça exerce aussi une pression sur nos contemporains. Quand même.
Oui, tout à fait. Il y a près d'un Français sur deux qui reconnaît que s'il dit qu'il ne s'intéresse pas au sport ou ne pratique pas un sport, il se sent un peu mal parce qu'il se sent un peu exclu. Et une grande partie des gens qu'on a interrogés nous disent « j'essaye au maximum de faire un peu d'exercice, de monter les escaliers, de faire un peu de marche, etc. » Donc, ce qui montre à quel point notre société est quand même dominée par le fait que le sport, ça fait partie des attributs essentiels d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait intéressant. Il y a une espèce de normativité qui s'impose sur la nécessité de faire du sport, parce qu'on est responsable de sa santé, déjà d'une part. C'est un peu le message aussi des politiques publiques, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'activité physique et du sport parce que c'est bon pour sa santé. Et les personnes qui n'en font pas, elles sont responsables de leur mauvaise santé. Donc cette normativité, elle est aussi excluante, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'elle met de côté aussi toutes les personnes qui ne sont pas aptes à pratiquer pour des raisons physiques ou sociale aussi, parce que le sport, c'est aussi une activité qui n'est pas accessible à tous et qui rejette aussi, de façon implicite, une partie de la population, parce que le tissu sportif n'est pas forcément adapté pour accueillir des personnes qui sont éloignées de la pratique par leur habitus et par leur vécu.
Pour prolonger ça, il faut bien se rendre compte que ceux qui n'aiment pas le sport, y compris du poids par exemple, voient de manière assez violente quelqu'un qui est ultra gaulé et qui court dans tous les sens, lui dire « ah bah t'as pris ou t'as pas couru ». C'est impossible d'avoir un point de contact. Vous n'avez pas provoqué le fait que quelqu'un fasse du sport en lui disant qu'il est trop gros ou qu'il n'est pas dans la norme. Donc il faut passer par le plaisir, il faut passer encore une fois par des potes avec des rythmes différents. Et si on trouve ça, derrière il y aura le sport santé. Mais si on passe immédiatement d'un non-sport à un sport santé, personne ne va vouloir y aller.
Et Laurent Vergne, un commentaire ?
Oui, je pense que le sport peut être ultra incluant, mais il peut être aussi excluant. Il faut faire attention à ça, c'est certain.
Et puis, votre enquête montre que pour de nombreuses personnes interrogées, le sport permet d'éduquer et de transmettre des valeurs.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très conscient, je pense, aujourd'hui, notamment chez les parents, le fait que, voilà, on transmet des valeurs. Alors, dans les valeurs qui sont transmises, il y a notamment la persévérance et le courage. Ça, c'est la première chose. Donc, le sport, c'est devenir courageux. On voit bien, et c'est pour ça que les sportifs, en tant que tels, sont de véritables modèles. Et puis il y a aussi la notion de rigueur et d'exigence qui est reconnue au sport.
Et de respect.
Et la notion de respect. Donc c'est la trilogie, j'ai envie de dire, qui est reconnue consciemment par beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils les mettent en pratique après? Là est la question.
C'est autre chose.
C'est autre chose, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça veut dire que par le sport peuvent passer beaucoup de choses. Et le sport, c'est quand même... Alors, évidemment, il y a ce déséquilibre qu'on voit bien nous dans notre enquête. C'est-à-dire que les plus aisés font beaucoup plus de sport que dans les milieux populaires.
Donc, ça, c'est très net hein, dans votre enquête.
Hein. C'est vraiment... Il y a un rapport du simple au double, en réalité. Hein. Donc, j'ai envie de dire que la vraie cause nationale cette année sur le sport, c'est démocratiser les pratiques pour que plus de gens fassent de sport, et notamment dans les milieux les plus modestes.
Cécile Collinet.
Oui, je pense que les valeurs que vous soulignez sur le goût de l'effort, le courage, etc., sont au fondement de la pratique, hein, vraiment. Pour ce qui est du respect, le respect des autres, le respect des règles, je pense que là, c'est quelque chose qui se travaille et qui doit être le résultat d'un processus éducatif collectif dans lequel le sport prend sa place, parce que la problématique est très forte, comme au sein de l'école, et que ça ne pourra être un projet mené à son terme que si les différents acteurs, donc, s'organise et travaille le sujet. Et d'ailleurs, les institutions sportives sont très conscientes de ça. Je sais pas, la fédération de foot a mis en place l'engagement citoyen, mais de façon très volontariste, ce qui montre aussi qu'il y a quand même un problème au niveau du respect, justement, des règles, des autres, qu'il faut travailler d'un point de vue éducatif de façon volontariste. Et ça, j'y crois beaucoup.
Laurent Vergne.
Oui, vous parliez notamment des instances, des fédérations, par exemple. Il y a un sport dont on a peu parlé, qui est le rugby. On parle très souvent des valeurs du rugby. C'est parfois brocardé par ceux qui n'aiment pas beaucoup ce sport. Mais World Rugby, qui est la fédération internationale, il y a une quinzaine d'années, je crois, a décidé de mettre vraiment, par écrit, les 5 piliers fondateurs des valeurs du rugby. Parce que c'était quoi les valeurs du rugby?
Alors, c'est quoi?
De mémoire, il y a le respect... la discipline, la solidarité, je crois que c'est l'intégrité, c'est avec le fair play qui est intégré dedans. Et voilà, donc c'était important pour World Rugby de mettre ça vraiment concrètement sur le papier pour qu'on puisse s'y référer.
Brieux-Ferrand.
Parce que les Français ont découvert avec France 2023 et le rugby, nous on a un peu touché ça du doigt en produisant un documentaire sur Antoine Dupont qui s'appelait Première Danse sur ses premières années à 17 ans avec des images d'archives. C'est le rapport au contact physique. C'est-à-dire, en gros, tant que vous n'avez pas soutenu des gens qui sont devant, derrière vous, en fait, vous avez beau théoriser les valeurs, vous êtes obligé d'être solidaire, sinon tout le monde explose. Éclate en plein vol. Et le rapport à ce que vous dites sur le volume, par contre, enfin la notion de pratique et d'augmentation de pratique, je crois moins au fait que ce soit du volume en heures que la qualité de l'accueil. Nous, on a vu un exemple avec des jeunes femmes au quartier prioritaire de la ville à Belleville, qui avaient été spotées par Paris FC pour venir, donc ils leur payaient leur licence pour pouvoir faire la pratique féminine. Et ben au bout de deux sessions, elles ont arrêté parce que des tours de terrain avec quelqu'un qui avait un chronomètre et un sifflet, c'était pas pour elles, quoi.
Abdou Gaba.
Oui, si on se décentre un peu, on se rend compte que les valeurs dont on parle sont extrêmement normatives, socialement efficaces, mais normatives. Et tout comme pour la musique, on oublie, en tout cas en France, et l'étude le montre encore, la notion de jeu. C'est un petit peu comme si on parlait de solfège, de persévérance, de travail, de ton instrument. Mais on joue de la musique, on joue au foot. Et là, on parle de pratique, d'exigence et finalement de dépassement de soi. Je finirai sur cette boutade. À force de vouloir se dépasser, on finira par plus se retrouver. Quoi.
Oui, juste pour rebondir sur le rugby, je pense que le monde du rugby a dans son ADN le respect des valeurs et il y a une construction très ancienne. Bon, le foot au départ aussi, hein, mais l'a un peu perdu avec son hyper-spectacularisation. Mais il y a une construction très forte hein, autour des valeurs, du discours autour des valeurs, du collectif et de l'oubli de l'individu au service du collectif qui irrigue vraiment cette pratique et qui fait partie de l'ADN de la pratique et qui fait partie de l'ADN de la construction du joueur de rugby et qui est extrêmement forte et extrêmement relayée dans les discours et dans les pratiques. Me semble-t-il.
Oui, juste sur le rugby, pour rebondir, pour vous donner des résultats, quand on demande aux Français les sports les plus populaires, ceux qui les intéressent le plus, bon, il y a le football sans surprise en premier, mais en deuxième, il y a le rugby. Et ensuite, il y a le tennis, le vélo. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez les hommes et les femmes, hommes et femmes mettent football en premier. Ensuite, les femmes vont mettre des choses que les hommes ne mettent pas, c'est-à-dire la natation, la danse, la randonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en cinquième, elles mettent le rugby. Donc...
Allez, on se retrouve dans un instant, juste après avoir écouté Tika et Mezza qui interprète One One. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one one. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend.
playing games on the low, but you ain't won one. No money of a guy that I let go. Your money of a friend I got too close. Your money of a man that got to hold me up. You playing games on the low, but you ain't won one. One, one. Peace of mind, see you tryna bang on my line. Give me back all my keys, I'm tired of betting you inside. I can lie. At a moment where I tried, let it go overnight, overhype, drop your like. Testing my patience, it's dangerous to play. It's giving it basic and it ain't enough. Could have been weighing my options, not wasting my time. Now I know I get money of a guy that I let go. You're money of a friend that got too close. You're money of a man that lied to hold. You playing games on the low, but you ain't won one. No money of a guy that I let go. You remind me of a friend I got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't won one. One, one.
Tika et Mezza interprété 1-1.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Et ce matin, ce que le sport raconte de nos sociétés. Alors Rémi Oudguiri, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Sociovision. Vous avez réalisé une étude avec Amaury Média. Et vous avez mis au jour 5 cultures du sport. Expliquez-nous.
Oui, alors parmi les gens qui font du sport, parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y a un tiers des Français qui ne pratiquent pas le sport, et il y a 12% de réfractaires, qui détestent le sport.
On en connaît.
Mais 12%, c'est pas beaucoup finalement. Alors, il y a 5 grandes familles. Il y a la famille, on va dire, qu'on connaît le plus, c'est les perfectionnistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la performance. Donc voilà, c'est important pour eux de faire du sport, ils essayent de se dépasser en permanence. Ensuite, il y a ceux qui font du sport de façon pour partager des émotions. Et en général, c'est très familial ou amical. Ils aiment bien faire ça dans le grand air. Ce sont ceux qui vont au ski, qui font du snowboard, qui font de la randonnée,
de l'escalade,
qui font du trek, de l'escalade, etc. Et le but, c'est pas du tout la performance. Là, c'est plutôt le plaisir d'avoir de fortes émotions. Après, vous avez ceux qui sont des slow sportifs, c'est-à-dire qui sont
attachés au sens de la lenteur.
De la lenteur, voilà. Et là, on va être alors c'est un peu plus féminin, un peu plus âgé, et là, bon, ça va être la randonnée, ça va être la gymnastique, ça va être le yoga, ça va être voilà. Et le but, c'est d'arriver à un équilibre entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est important. Enfin, il y a deux autres familles. Il y a une famille qu'on a appelée les supporters. C'est-à-dire, eux, le sport, c'est une occasion de célébrer entre amis. Alors, aussi en club, mais on s'aperçoit que c'est plus le spectacle que la pratique est importante pour eux. Donc, c'est typiquement le dîner entre amis. On va regarder le match de foot. Chez soi, etc. Bon. Et ça, c'est le plus important, c'est la célébration, c'est être ensemble, c'est la convivialité.
Et puis, il y a des athlètes de la salle comme vous.
Comme moi, dans un monde idéal. L'athlète de la salle, alors, c'est intéressant parce que c'est un petit groupe, et c'est plutôt une tendance qui monte.
Là, c'est très masculin et très jeune.
C'est très jeune, très masculin. Il y a un côté très, je vais montrer mes muscles.
Ma
et
force,
c'est d'ailleurs très
mon statut.
Valorisé. Le statut, la force. Et c'est l'idée que le sport, c'est la meilleure voie vers la réussite. Et il y a une fascination pour les sportifs chez les athlètes de la salle.
Et c'est vraiment passionnant dans cette étude. Autour de la table, vous appartenez à quelle famille ? Cécile Collinet, vous êtes très sportive.
Oui, bien moi je n'aime pas me faire enfermer dans une famille, donc je navigue entre les familles en fonction des situations.
Moi c'est plutôt slow. J'étais à la tête de la salle il y a bien longtemps, et maintenant c'est plutôt slow. Laurent Vergne.
Ouais, moi je suis supporter, ouais. Et puis un peu de salle, et méchant que je vais... Le slow, ça va vite être pour
ça
moi.
Arrive, hein, ça arrive, ça arrive.
Je suis un méditatif, moi je crois qu'il y a une famille comme ça.
Donc... No sport, comme
si, la convergence du corps et de l'esprit.
Brio-Ferro.
Un peu comme Benoît Poulvord qui faisait des grands concours de sieste là pendant 20h, 25h, le Moukoutra, qui est une chanson de Dutron. Donc c'était voilà, c'est une autre catégorie, ça finit au slow, mais je dirais que c'est un peu partout.
Vous la chantez la chanson, non?
Non, je la connais pas bien.
Non, vous la connaissez pas bien. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver cette étude, Rémi Oudguiri?
On peut le retrouver sur le site d'Amaury Média, par exemple, et puis aussi sur le site de Sociovision.
Bon, mais c'est une très très jolie étude. Un mot de conclusion peut-être, Cécile Collinet? Je vous laisse le mot de la fin.
Bien, je dirais, le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent, pour paraphraser Maurice Baquet.
Juste pour...
Abdoulaba.
Oui, alors,
Imaginez des Indiens d'Amérique qui arrivent au Stade de France. Ils pénètrent dans ce temple colossal. Ils regardent des tambours et des gens en bleu à gauche, des tambours et une autre cadence avec des gens d'une autre couleur. Et puis au milieu, un préavage délimité avec du blanc. Quand tout à coup, il y a un homme avec un sifflet qui siffle comme un oiseau et tout le monde se met à courir. Vous voyez, le sport, si on comprend pas la tradition, si on comprend pas la règle, on a très vite fait de prendre l'autre pour un sauvage.
Merci à toutes et à tous. Merci Cécile Collinet, Rémi Houdguiry, Abdouk Daba, Brieux Ferro et Laurent Vergne. Et demain, vous retrouvez le Club du Vendredi. Et on parlera de... qu'est-ce qu'on plante en ce moment dans son potager à l'approche de l'été, hein, vaste question.